France Musique.
23h, tout pile, vous retrouvez Françoise de Georges et ses couleurs du monde. Bonsoir.
Okora, couleurs du monde, bonsoir. Nos invités ce soir, Marianne Poncelet, écrivain et vice-présidente, membre fondateur de la Fondation internationale Yehudi Menuhin, et Kiran Vyas, pionnier de l'Ayurveda en France, directeur et fondateur du centre Tapovan, université ouverte. Auteur aussi de plusieurs ouvrages de référence sur la pratique du yoga et la connaissance de l'Ayurveda. Ils évoquent ce soir leur ami commun, Yehudi Menuhin, qui nous a quittés il y a 25 ans déjà, à l'âge de 82 ans. Yehudi Menuhin et ses attaches profondes avec la culture et la philosophie indienne et la pratique du yoga qu'il découvre lors de son premier voyage en Inde, c'était en 1952, à travers la rencontre du maître yogi Bikaes Iyengar. Et c'est là, au cours de ce même voyage, qu'il entend pour la première fois en concert un autre maître, le sitariste Ravi Shankar, accompagné de Chatul Lal au tabla. Et c'est à partir de là, et pour tout le reste de sa vie, que Yehudi Menuhin cultivera, expérimentera comment musique et yoga convergent vers des objectifs communs d'harmonie et d'épanouissement. Avec Ravi Shankar, il accédera, je le cite, à la qualité la plus émouvante et la plus excitante de la musique indienne, c'est ce côté immédiat de l'expérience, aussi spontané qu'un influx électrique. Fin de citation. Yehudi Menuhin a choisi très jeune de manière instinctive le violon, instrument très répandu parmi les juifs russes, à la fois, comme il le dit, pour sa forme sensuelle et aussi qui appartient à l'âme par sa sonorité. Dans la région du sud de la Russie dont il est originaire, le violon est le mode d'expression le plus intime, le plus proche des communautés juives et tziganes qui vivent là, côte à côte. Yehudi Menuhin célébrera et œuvrera toute sa vie durant pour l'éducation, la paix et la fraternité universelle. On l'écoute dans cet extrait de la sonate pour violon de Béla Bartok, c'était en 1991. Un extrait de la sonate de Béla Bartok par Yehudi Menuhin. Marianne Poncelet.
Yuli Menuhin avait reçu le prix Wolf, qui est un prix prestigieux en Israël. Et à cet égard, il est allé recevoir son prix à la Knesset en Israël. Et c'est à cette occasion qu'il a fait ce discours. J'en lis quelques passages parce qu'ils sont vraiment d'actualité. On peut le lire actuellement et ressentir le même impact. J'aimerais rappeler les mots de Salomon, sans doute le plus avisé de tous les hommes. Ces mots écrits afin que nous les observions éternellement. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement, que ton cœur retienne mes recommandations, car ils te vaudront de longs jours, des années de vie et de paix. Que la bonté et la vérité ne te quittent jamais. Attache-les à ton cou, inscris-les sur les tablettes de ton cœur, et tu trouveras faveur et bon vouloir aux yeux de Dieu et des hommes. Jamais ces mots n'ont été aussi opportuns qu'aujourd'hui, dans ce monde déchiré par les conflits et le malheur. La peine, l'angoisse et l'horreur nous entourent. Le moment n'est-il pas venu pour nous, Juifs réunis ensemble en Israël, de reconnaître notre suprême destinée, celle de guérir et d'aider? La réciprocité est la loi pragmatique de toutes les sociétés. Ceux qui vivent par l'épée périront par l'épée. Et la terreur et la peur. La haine et le mépris sont mortellement infectieux. Et dans le même esprit, vous devez aimer si vous désirez être aimé, vous devez faire confiance pour que l'on vous fasse confiance et servir pour que l'on vous serve. Quelles que soient les alternatives, il doit y avoir une réciprocité absolue, une égalité absolue, la reconnaissance mutuelle de la dignité de la vie, le respect des traditions de chacun et de son histoire. Telles sont les conditions sine qua non de la paix. Et non une paix qui serait un hiatus afin de préparer d'autres guerres, mais la paix dans sa signification intégrale, la paix qui doit rester et qui restera une lutte constante et noble.
Extrait du discours de Yehudi Menuhin à la Knesset, le 5 mai 1991.
C'était sa mission sur Terre, je pense, puisque toute sa vie, il a mené des combats toujours pour rappeler l'importance de la paix entre les hommes. C'était son grand défi et son grand travail sur Terre, jusqu'à la fin de sa vie. C'est tellement vrai qu'il avait comme rêve, quand il était petit, de jouer dans la chapelle Sixtine à Rome, la chaconne de Bach. Et il pensait que s'il faisait cela un jour, alors il apporterait la paix au monde. Et toute sa vie, il l'a apporté, parce que bon, pendant la guerre 40-45, il est allé faire 500 concerts dans les camps, dans les bases américaines pour les soldats. Il a joué après dans les camps libérés, avec Benjamin Britten d'ailleurs. Il a pris la défense de Rostropovich, de David Oistrakh en Russie, et de Solzhenitsyn, après de Miguel Estrella en Argentine. Toute sa vie, il a vraiment lutté pour que la vérité, le bien, soit vraiment au cœur de nos vies.
Thank you. vous, Marianne Poncelet, vous avez rencontré Yehudi Menuhin à quel moment de votre carrière, de votre vie ?
Alors, je l'ai rencontré par un conte. Un conte de fées que j'avais écrit qui s'appelait Romuard, un enfant de la terre et du ciel, que je lui avais envoyé en lui demandant d'écrire une préface. C'était l'histoire d'un petit garçon qui venait sur Terre et qui avait des pouvoirs magiques et qui transformait tout ce qui n'allait pas en y trouver une solution créative à chaque problème.
C'était lui, finalement.
Oui, c'était lui. En fait, je pense qu'il s'est un peu retrouvé dans ce que j'avais écrit, dans cette métaphore. Et donc, deux jours après, il m'a contacté en disant « Voilà, je l'ai lu en une nuit, votre conte est magnifique, je vous envoie une préface. »
Lors de ce premier échange poétique, littéraire, comment en êtes-vous arrivé à la création de la Fondation Yehudi Menuhin ?
Oui, alors au départ, donc pour reprendre mon histoire de conte, Yehudi Menuhin m'a dit au téléphone « Venez me voir à Londres ». Donc je vais le voir à Londres. Et là, il commence à m'expliquer à Chester Square, dans sa maison, m'explique tous les projets qu'il avait. Il était président de 10 000 projets. À un moment donné, je lui dis « Mais pourquoi vous ne faites pas une fondation pour centraliser tout ce que vous faites et pour que ça puisse se pérenniser ? Et quand vous nous quitterez, ben, on peut continuer. » Ah, ben, achetez un fax, travaillez pour moi et faites cette fondation. Voilà ce qu'il m'a dit. C'est comme ça que je me suis retrouvée, j'avais 28 ans, à faire cette fondation à Bruxelles, sans avoir ni de business plan, ni de plan de quoi que ce soit. J'avais juste la parole du maître qui me disait « faites cette fondation ». Et donc, après, petit à petit, j'ai trouvé les gens, j'ai trouvé tout ce qu'il fallait dans le conseil d'administration pour poser les bases de la fondation. Et tout de suite, il était convaincu qu'il fallait lancer un projet novateur permettant aux enfants, dès le plus jeune âge, d'avoir accès à l'art. Tous les arts, avant d'apprendre les mathématiques, les sciences ou toutes les autres disciplines. Pour lui, c'était important, un peu comme Zoltán Kodály en Hongrie, que les enfants chantent et dansent pour être bien dans leur peau, bien dans leurs émotions, et seulement après passer à l'intellectuel. À partir de cette idée de base, on a créé un programme qui s'appelle Muse, dont on a fêté maintenant les 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on travaille dans à peu près 12 pays de manière récurrente. Ça veut dire chaque semaine, des artistes vont donner des ateliers de chant, de danse, de théâtre, de mime, de tout ce qu'on veut, de tous les arts, de toutes les disciplines, inclus dans le programme scolaire, en présence des enseignants qui doivent eux aussi participer. Donc c'est vraiment un partenariat enfant-artiste-enseignant. J'ai le souvenir notamment à Lisbonne, on était allé visiter une des premières écoles qui avait commencé le programme MUSE là-bas. Il y avait beaucoup de musiciens du Cap-Vert d'ailleurs, parce qu'en fait il y a beaucoup d'enfants du Cap-Vert, Angola, Mozambique qui se trouvent dans les banlieues de Lisbonne, ainsi que des enfants roms aussi. Et tous ces enfants étaient dans l'école et avaient préparé avec les artistes et les enseignants une journée pour Yehudi Menuhin, qui était vraiment centrée sur la musique et la danse. C'était magnifique. Et même les dames de ménage qui venaient du Cap-Vert, elles avaient préparé un groupe de percussion sur des sacs poubelles qu'elles avaient remplis de terre. Et toute la communauté de l'école a participé à cette journée visite de Yehudi Menuhin. Ce qui fait que ça a changé complètement le regard de l'enseignant sur l'enfant qui peut-être n'était pas bon en mathématiques ou en portugais, mais qui par contre savait danser magnifiquement, beaucoup mieux que les enfants portugais par exemple. Et donc c'est ça la dynamique de notre projet, c'est que ça change le regard qu'on peut avoir et qui stigmatise parfois certains enfants. Eh bien, à travers les activités non verbales, on change complètement la dynamique.
Ravi Shankar et Yehudi Menuhin enregistrent pour le label EMI un album titré West Meets East. C'est en 1966. Ravi Shankar compose pour Yehudi Menuhin une pièce introductive basée sur le raga Kunkali qu'il intitule le Prabhati. C'est ce que nous venons d'écouter. La voix de Yehudi Menuhin au micro d'Armand Panigel pour France Musique. C'était en 1981.
Je dois à Ravi Shankar et aux autres musiciens et à ceux qui jouent le tabla, l'instrument, les tambours, des expériences inoubliables et très importantes. Je n'ai pas osé, mais Ravi Shankar m'a demandé tous les ans que je m'y joie. Et évidemment, il est un précepteur extraordinaire, très clair. Il me décrit, il me joue ma partie et je suis comme un petit enfant qui est entraîné à faire de la musique ensemble. Et c'était pour moi une expérience aussi merveilleuse parce que quand on improvise et quand on joue de cette façon, chaque petite note, chaque intervalle acquiert, chaque rythme acquiert une valeur énorme, beaucoup plus grande que quand on le voit déjà imprimé, et il faut se rendre compte que ce n'est pas imprimé, que c'est une chose qui commence, qui jaillit du compositeur, qui n'est pas déjà là. Là, aussitôt qu'on entend une octave, une septième, une appoggiatura qui porte toute l'importance d'une chose nouvelle, créée au moment, comme si on la concevait, c'est un peu, au lieu de regarder un être comme simplement un numéro ou un autre être, on le regarde comme si on était sa mère. C'est tout autre chose.
Le premier album titré « West Meets East » qui date de 1966, remporte un tel succès que Ravi Shankar et Yehudi Menuhin décident de renouveler l'expérience l'année suivante avec le volume 2, dans lequel figure le raga Mishrapilu, un morceau que les deux musiciens ont choisi d'interpréter lors de la célébration des droits de l'homme au siège des Nations Unies à New York. C'était le 10 décembre 1967. La pièce dure 14 minutes et on l'écoute dans son intégralité. Ravi Shankar et Yehudi Menuhin.
Thank you.
Ravi Shankar au sitar, Yehudi Menuhin au violon, Allah Raka au tabla et au tamboura, Nodu Molli et Amiya Dasgupta. C'était le raga Mishra Pilou, extrait du volume 2 de West Meets East, enregistré en 1967. La voix de Ravi Shankar en français, diffusée sur France Musique en 2016.
On ne peut pas juste apprendre la technique, comme vous dites, il faut connaître l'esprit de notre pays, le background, l'histoire et les choses passées, comme on dit. Notre musique est absolument comme ça, mixée avec le yoga, religion, spiritualité et tout ça.
Okora, couleur du monde sur France Musique. Ce soir, Yehudi Menuhin et l'Inde avec Marianne Poncelet et Kiran Vyas, que nous sommes allés rencontrer au centre Tapovan, chez lui. Dans cet endroit de paix et de nature qui se situe à Sasto-le-Mauconduit, un petit village de Normandie, un centre créé là en 1983 par Kiran Vyas, qui rentrait tout juste de l'Inde, où la présidente de la République, Madame Troupadi Murmu, lui a remis il y a quelques jours l'une des plus hautes distinctions civiles en Inde, le prix Padma Shri, qui lui a été attribué donc pour sa contribution au yoga et à l'Ayurveda et son travail désintéressé pour ces grandes causes. Kiran Vyas est né à Laktar, dans le Gujarat, où il a vécu près de son père qui travaillait à l'ashram de Sabarmati avec le Mahatma Gandhi, dont il a reçu les grands principes philosophiques.
J'étais né dans l'atmosphère de Gandhi. Mon père travaillait avec Gandhi. Notre maison se trouvait à peine à 40-50 mètres de où vivait Gandhi. Et en même temps, mon père a été donné une responsabilité par Gandhi sur l'éducation. Trouver un système éducatif qui soit valable pour tout le monde et qui soit dans une certaine sorte d'autarcie aussi. Et c'est là que mon père avait développé un système de 3 H. Premier H, head, la tête, pour l'éducation classique, on va dire. Deuxième H, pour heart,
le cœur,
qui est beaucoup plus l'éducation de la créativité, l'art, la musique, la danse, tout ce qui pourrait nous transformer au niveau de émotionnel vers le haut. Au lieu de descendre vers le bas, la musique qui va nous élever. Puis, troisième H pour hands, hand, veut dire les mains. Alors, le travail manuel. Et par ce travail manuel, Gandhi avait conseillé le travail du filage du coton. Au lieu de coton fabriqué en Inde, soit envoyé à Manchester ou ailleurs en Angleterre, et les vêtements sont faits à partir de ça, et après que cela revienne, que chaque Indien devait filer son propre coton pour préparer ses propres vêtements. Par exemple, ce que je porte là, c'est de la soie et du coton mélangé qui est fait à la main. Alors, chaque personne devait faire un travail, que ce soit un enfant, un adulte, à la maison, la femme au foyer ou quelqu'un qui travaille, même un ministre, même Gandhi lui-même. Il faisait du filage du coton et en même temps il donnait un rendez-vous diplomatique ou politique, ou même quand les écrivains comme Romain Rolland ou bien même avec Tagore et les autres, quand ils parlaient, ils continuaient à travailler. Comme ça, son temps n'était pas perdu. Alors, ces 3 H de l'éducation, mon père a développé un système à tel degré que même avec le jardinage, avec le travail de la menuiserie et d'autres, on arrivait à avoir des salaires des enseignants et tous les vêtements de chaque écolier, chaque enseignant par ce travail collectif. Alors ça, c'était mon expérience de l'enfance quelque part.
Alors, à quel moment, Kiran Vyas, vous avez eu l'opportunité de croiser le chemin de Yehudi Menuhin ?
Le premier concert que j'ai écouté de Yehudi Menuhin, c'était là-bas à l'UNESCO, entre 78 et 82 ou quelque chose. Et j'étais impressionné, j'avais entendu parler de lui, et c'était très touchant parce que... Un être humain tout petit en taille, il se met, il y a un silence qui se crée dans toute la salle, avant même qu'il commence, et il y a une communication du silence qui se fait d'abord. Personne ne parle, et lui aussi, avant même de première note qui commence, comme s'il a déjà créé une atmosphère, que toutes les oreilles étaient prêtes. Je ne dirais pas que simplement les oreilles. Quelque part, tous les cœurs sont prêts à recevoir quelque chose. Comme si on vibrait d'amour, on vibrait de quelque chose qu'on voulait recevoir. Et c'est cette expérience, je dirais même avant le commencement, qui m'a touché. Une expérience très profonde. C'est l'expérience de la créativité quelque part.
Yehudi Menuhin jouait le Caprice en mi majeur de Niccolo Paganini, Kiran Vyas.
Yehudi Menuhin, comme vous savez, il pratiquait le yoga, c'est-à-dire les postures de yoga, les respirations, etc. Un jour, quand on discutait tous les deux, Il me dit qu'il était en Inde et Nehru, le premier ministre de l'Inde, était dans une autre chambre d'hôtel quelque part. Ils devaient se croiser, se voir. Alors comme Nehru ne répondait pas, alors il a voulu aller vers sa chambre. Alors il a trouvé Nehru dans la position de Shirshasana, c'est-à-dire la position où la tête est en bas, les jambes en haut, c'est-à-dire posture renversée. Alors, il dit que soit lui, que Yehudi Menuhin, soit Nehru, tous les deux adoraient se mettre dans cette posture renversée, que les jambes se trouvent dans le ciel et la tête se trouve vers la terre. Et ça s'appelle la posture royal, c'est le roi des postures, on dit chez nous, parce que les bienfaits sont énormes, incroyables. Mais en même temps, par rapport à cette posture, il faut faire attention de suivre certaines règles de base, etc.
Savez-vous qu'en 1982, à l'âge de 66 ans, Yehudi Menuhin a la même, jusqu'à diriger en posture sur la tête et avec les pieds vers le ciel, l'Orchestre Philharmonique de Berlin pour l'ouverture de la 5e symphonie de Beethoven. Alors, Kiran Vyas, il y a les postures dans le yoga et puis la philosophie, la spiritualité qui y sont parfaitement associées.
Ce n'est pas le yoga dans le sens occidental ou simplement les postures de yoga. Posture de yoga, c'est des bases qu'on fait, mais c'est l'esprit de yoga qui devait se créer avec. Alors, je me rappelle une fois, j'avais à peine, je dirais, 6-7 ans, j'ai posé la question, mais c'est quoi le yoga? Mon père, avec un petit sourire, a regardé vers moi et m'a dit, le yoga n'est rien d'autre que savoir être joyeux et heureux à tout l'instant de la vie. Alors, j'ai écouté, et puis j'étais content d'entendre cette phrase-là. Et en même temps, j'ai dit, ah bon, pour être heureux, s'il fallait mettre la tête en bas, les jambes en haut, pour être heureux, il faut faire telle gymnastique, ou il faut discuter si longuement. Je disais que ça n'allait pas la peine de faire tout ça. On pourrait être heureux à chaque instant de sa vie. Mais plus tard, je me suis rendu compte de la profondeur de cette phrase de mon père, que être heureux à chaque instant de la vie n'est pas si facile que ça. Et lui-même, qui a pratiqué d'abord les postures et les respirations et des mantras, mais il est allé vers Aurobindo et la mer à Pondichéry.
On connaît aujourd'hui, Kiran Vyas, le grand rayonnement de cet ashram qui a été fondé par Sri Aurobindo et rejoint quelques années plus tard par Mira Alfasa, qu'on appelle donc la mer.
Et pour moi aussi, c'était cette approche que j'ai eue parce que j'ai fait toute mon éducation là-bas à Pondichéry, dans l'ashram de Aurobindo. Aurobindo est un grand yogi, il est aussi un grand révolutionnaire qui a travaillé pour l'indépendance de l'Inde. Il a étudié à peu près 19 langues. Son travail, c'était d'abord les synthèses de yoga, toutes sortes de systèmes de yoga qui existaient. Il a fait une certaine sorte de synthèse et puis il a trouvé le yoga intégral est une méthode par laquelle, ou disons des méthodes par lesquelles, on va se transformer, et c'est là l'importance de chaque art, la musique et tout ça avait une grande importance. Alors quand j'ai rencontré Yehudi Menuhin, pour moi, c'était juste la vraie continuation de tout ce que j'avais senti pendant nombreuses années.
Vous avez accueilli ici même à Tapovan, Kiran Vyas et Yehudi Menuhin. à une période où il le disait lui-même, il souffrait de fatigue nerveuse, de douleurs musculaires, articulaires, liées à sa grande pratique du violon. Et le yoga a eu raison de tous ces maux.
On avait un grand rêve ensemble, tous les deux. C'était... Il m'a dit qu'un jour, on était juste en train de marcher ici et il s'est arrêté. Alors je me suis dit, puisqu'il a mal, quelque chose. Alors j'ai posé, tout va bien? Il dit oui. Puis il dit, ah, je vois un village de la paix ici. Et puis il s'est tourné vers moi et dit, ah, alors tu vas créer ça, n'est-ce pas? J'ai répondu aussitôt, si vous êtes avec moi, oui, que ensemble avec vous, je créerai. Alors, il a dit, oui, d'accord, on va faire un travail ensemble. Et c'est comme ça qu'il m'a mis en contact avec Pierre Rabhi. Et grâce à Pierre, après, pendant ces vingtaines d'années, on a fait tout un travail dans le domaine de l'écologie, dans le domaine de tout ça. Pierre est devenu un très, très grand ami. Et aussi, il y a Edgar Morin, qui a 102, 103 ans maintenant. Et alors, tous ces contacts, et on discutait ensemble, et puis ça crée, selon moi, une certaine sorte de vibration. Vibration de l'expérience, vibration de l'intellect, avec un très grand amour pour toute l'humanité. Où il n'y a personne qui soit en bas de l'échelle, ni en haut. C'est embrasser tout le monde et monter vers quelque chose.
Alors on parlait du yoga, mais bien sûr, il y a l'Ayurveda. Et c'est indissociable aussi pour vous, ça.
Pour moi, c'est vraiment deux choses ensemble. Yoga et Ayurveda sont des deux dons de l'Inde à l'humanité. Yoga, pour moi, c'est beaucoup plus une recherche d'une intériorisation, une recherche intérieure de son fort intérieur, une certaine sorte de recherche spirituelle. L'Ayurveda, qui va donner plus la santé, la beauté et le bien-être. Comment vivre la vie, comment recevoir, comment faire les massages, comment se promener, comment que la nature, que l'harmonie et la santé de la terre est aussi importante que la santé de l'être humain. D'ailleurs, ça dépend entièrement de la santé de la terre.
On écoute Tenderness, c'est une composition de Ravi Shankar pour Yehudi Menuhin. C'est extrait du troisième et dernier volume de West Meets East, c'était en 1976. Thank you.
Thank you.